de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Union européenne réduit la demande d'énergie de la Russie. Président espère le soutien de la Corée du Sud à la présidence indonésienne au sommet de l'ASEAN. Ministre Sandiaga Uno qualifie l'année politique de bonne pour le tourisme et l'économie créative. La ministre Sri Mulyani appelle l'inflation au retard de croissance pour être au centre des préoccupations en 2023. Bahlil invite le patron de Siemens Energy à investir dans des panneaux solaires en Indonésie. Ministère des Transports et CASA Australia discutent des questions de sécurité aérienne. Et les véhicules électriques deviennent l'axe principal des 10 programmes prioritaires du ministère indonésien des Transports. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. L'Union européenne a réduit de plus de 20% la demande énergétique de la Russie entre août et novembre 2022. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors du Forum économique mondial, WEF, mardi. Dans son discours au Forum, von der Leyen a déclaré que la décision de l'Europe contre la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine était le dernier exemple de la façon dont l'Union européenne se rassemble au moment le plus crucial. Elle a souligné qu'il n'y aura pas d'impunité pour les crimes de la Russie et que l'Union européenne sera impliquée aussi longtemps que nécessaire et soutiendra l'Ukraine. Elle a dit qu'il y a un an, l'Europe était fortement dépendante des combustibles fossiles russes. La dépendance qui s'est accumulée au fil des décennies rend l'Union européenne vulnérable aux pressions de l'offre et à la hausse des prix de l'énergie en provenance de Russie. Or, selon von der Leyen, l'Europe a su surmonter cette dépendance, qu'il qualifie de dangereuse. L'Europe a remplacé 80% du gazoduc russe. Il a également déclaré que grâce aux efforts collectifs, l'Union européenne pourrait réduire les prix du gaz plus rapidement que prévu. Selon von der Leyen, d'un pic en août où il était de 350 euros par mégawattheure, il est maintenant en baisse de 80% ce mois-ci, en dessous des niveaux ukrainiens d'avant-guerre. Le président Joko Widodo a rencontré le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Kim Jin-pyo, à la base aérienne de Halim Perdanakusuma, Jakarta, mercredi soir. Lors de la réunion à laquelle a participé la présidente du Parlement indonésien, Puan Maharani, le président Joko Widodo a discuté, entre autres, de l'augmentation des relations de coopération entre les deux pays qui s'est déroulée bien depuis un demi-siècle, pour demander le soutien de la Corée du Sud à l'Indonésie, présidence du sommet de l'ASEAN. Puan Maharani a expliqué la réunion selon un communiqué reçu du bureau de presse du secrétariat présidentiel à Jakarta mercredi soir. Puan a déclaré que l'élan des relations de 50 ans entre l'Indonésie et la Corée du Sud cette année devrait encore améliorer et renforcer les relations entre les deux pays. Puan a en outre expliqué que dans le domaine du commerce, on espère qu'avec la ratification de l'accord de partenariat économique global Indonésie-Corée, IKCEPA, le 1er janvier 2023, les relations commerciales entre l'Indonésie et la Corée du Sud pourront également augmenter. En outre, l'Indonésie et la Corée du Sud espèrent également que la paix et l'harmonie dans la péninsule coréenne pourront être maintenues. Le ministre indonésien du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, a déclaré qu'en 2023, qui est cette année politique, l'industrie du tourisme a le potentiel de connaître un bon développement en raison du grand nombre de partis politiques qui exercent des activités dans un certain nombre d'hôtels. Le ministre Sandiaga Uno, lors de l'événement Indonesian Tourism Outlook 2023 qui s'est tenu à Jakarta mercredi 18 janvier, espère qu'un certain nombre d'événements politiques auront lieu au café et invitera les candidats aux législatives à organiser des événements à cet endroit. Le ministre a également évalué que l'ère politique actuelle a complètement changé. L'ère de la politique de division a été laissée derrière par la jeune génération et a commencé à laisser derrière elle une politique malheureuse. Selon lui, la politique doit être amusante. Pour cette raison, le ministère fait pression pour divers efforts. En 2023, cela pourrait être le bon moment pour investir dans les principales destinations touristiques d'Indonésie et le gouvernement a pour objectif d'ouvrir 4,4 millions d'emplois dans le secteur du tourisme en 2024. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, lors de l'événement commémoration de la journée du service du Trésor 2023, a déclaré qu'il y avait quatre choses sur lesquelles s'est concentré en 2023, à savoir l'inflation, l'extrême pauvreté, l'investissement et le retard de croissance. Selon la ministre, l'inflation doit être maîtrisée car elle peut affecter beaucoup de choses. Parallèlement, pour réduire ou éliminer l'extrême pauvreté, le gouvernement y prête attention en utilisant les instruments fiscaux du budget des recettes et des dépenses de l'État. Le prochain objectif est l'investissement avec la tendance à l'affaiblissement de l'économie mondiale, le climat d'investissement qui a un impact sur la réduction des coûts et des risques d'investissement doit être développé de sorte que même si les taux d'intérêt augmentent, les investisseurs peuvent toujours être sûrs qu'ils bénéficieront de l'investissement. Pour le retard de croissance, les enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition finiront par avoir une croissance sous-optimale. Même si le taux de retard de croissance est passé de 33% à 24%, il sera toujours encouragé à être fortement réduit. Le ministre indonésien de l'investissement, Bahlil Hadalia, a offert à Siemens Energy une opportunité d'investissement pour l'industrie des équipements de panneaux solaires. Il a dit que l'Indonésie a des matières premières abondantes à des prix compétitifs. Il a fait cette offre lors d'une réunion avec le président et chef de la direction de Siemens Energy Inc., Christian Brauch, au pavillon indonésien Davos, Suisse, mardi 17 janvier 2023, heure locale. Balil, par le biais d'un communiqué de presse du ministère de l'Investissement mercredi 18 janvier 2023, a expliqué que son parti accorde à Siemens Energy la plus grande appréciation pour toute la coopération jusqu'à présent. Par ailleurs, le gouvernement indonésien tente de convaincre Siemens Energy de superviser les investissements de l'entreprise dans le pays, notamment dans le secteur de la transition énergétique. Auparavant, Siemens Energy Global GmbH Co.KG avait signé un protocole d'accord avec Multifabrindo Gemilang SA pour une coopération en matière d'investissement dans le secteur de la transition énergétique le 10 novembre 2022. La valeur d'investissement de Siemens Energy est estimée à 70 jusqu'à 100 millions d'euros, soit équivalent de 1 trillion de roupies. Pendant ce temps, le PDG de Siemens Energy, Ing Christian Brauch, a déclaré qu'il souhaitait optimiser davantage les opportunités d'investissement en Indonésie. La Direction générale de l'aviation civile du ministère des Transports, en collaboration avec l'Australian Civil Aviation Safety Authority, CASA, a organisé un atelier sur la sécurité aérienne sur le thème « Wildlife Hazard ». Représentant le directeur général de l'aviation civile et Maouloudine en tant que directeur de la navigabilité et des opérations aéronautiques, apprécie CASA Australie d'avoir initié cette activité. Maouloudine, cité dans sa déclaration écrite à Jakarta mercredi, a déclaré que l'atelier Wildlife Hazard avait discuté des perturbations des opérations de vol causées par des animaux sauvages, en particulier des impacts d'oiseaux autour de l'aéroport. L'atelier est également important compte tenu de la situation géographique de l'Indonésie en tant que pays maritime et agricole, ce qui fait que la plupart des aéroports sont situés à proximité de forêts, de rizières et à proximité de plages, à proximité d'animaux sauvages, de sorte qu'il existe une forte probabilité d'attaque d'animaux sauvages. Sur la base des données de la Direction générale de Ubud, plusieurs incidents d'impact d'oiseaux ont été signalés à plusieurs reprises dans les principaux aéroports d'Indonésie, tels que l'aéroport de Soekarno-Hatta, l'aéroport de Hasanuddin, l'aéroport de Juanda et l'aéroport de Hang Nadim, ainsi qu'à plusieurs endroits dans l'est de l'Indonésie. Le ministre indonésien des Transports Budi Karya Sumadi a déclaré que les véhicules motorisés électriques sont l'un des principaux axes des 10 programmes de travail prioritaires en 2023, parce que le développement de ces véhicules est censé avoir des effets à long terme sur divers aspects, tels que réduire le coût des subventions au mazout et au développement durable des écosystèmes verts. Le ministre Budi, lors d'une réunion de travail avec la Commission 5 du Conseil représentatif du peuple indonésien diffusée sur YouTube mercredi 18 janvier, a déclaré « En 2023, le ministère des Transports portera une transformation économique inclusive et durable ». Il a expliqué les priorités du premier programme de travail du ministère des Transports au cours de cette année sont de développer une connectivité productive et de soutenir la croissance économique régionale. Deuxième priorité, soutenir et améliorer la sécurité des transports et augmenter la quantité et la qualité des services publics. Troisième priorité, programme d'appui à l'amélioration des ressources humaines, secteur des transports, à travers la mise en œuvre de l'enseignement professionnel et la montée en compétence des appareils. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique ayant pour le titre « L'ambassade d'Indonésie fait la promotion de voyages organisés pour les programmes touristiques indonésiens en Norvège ». L'ambassade d'Indonésie à Oslo travaille avec deux voyagistes tels que Come to Indonesia et AISIEN Paradis Resort pour promouvoir directement les voyages organisés et les programmes touristiques en Indonésie auprès des touristes potentiels en Norvège. L'ambassadeur d'Indonésie en Norvège, Todung Mulia Lubis, a déclaré qu'il était très heureux de voir l'enthousiasme des touristes norvégiens qui étaient à nouveau ravis après la pandémie de se rendre en Indonésie, en particulier à Bali, Lombok et Yogyakarta. L'ambassade d'Indonésie continuera à promouvoir l'Indonésie afin qu'elle devienne une destination préférée des touristes norvégiens. Selon un communiqué de l'ambassade d'Indonésie à Oslo, mardi 17 janvier, la promotion de voyages organisés et de programmes de voyages en Indonésie a été réalisée lors de l'événement Explore the World Travel Expo qui s'est déroulé les 14 et 15 janvier 2023 à la Telenor Arena, Oslo, Norvège. L'événement est le plus grand salon de voyages en Norvège auquel participent plus de 7000 personnes chaque année. D'après les archives de l'ambassade d'Indonésie à Oslo, le nombre de touristes norvégiens visitant l'Indonésie atteint près de 23 000 personnes en 2019 et recommence actuellement à augmenter après la pandémie de COVID-19. L'ambassade d'Indonésie à Oslo cible au moins 5 000 touristes norvégiens à visiter l'Indonésie en 2023. Bien que peu nombreux en termes de nombre, les touristes norvégiens sont l'un de ceux qui dépensent le plus d'argent en voyage. Les types de tourisme les plus populaires auprès des touristes norvégiens sont le tourisme culturel, l'écotourisme et le tourisme de santé. Le salon du voyage Explore the World 2023 est le premier à se tenir en Norvège depuis la pandémie. L'ambassade d'Indonésie à Oslo participe régulièrement à l'exposition dans le cadre des efforts de promotion du tourisme indonésien en Norvège depuis 1996. Cette année, le stand indonésien a remporté le prix du meilleur stand en raison de son design de sa participation culturelle et du nombre élevé de visiteurs qui se sont rendus sur le stand. En plus d'offrir un programme touristique, le point de vente indonésien de l'exposition a présenté Denjules Denbon, l'un des entrepreneurs norvégiens du café, pour fournir du café de spécialité indonésien. La rhum du café Mandailing et Kintamani qui remplissait la salle était l'une des attractions du stand indonésien, a déclaré l'ambassade d'Indonésie à Oslo. Dans cette activité promotionnelle, le stand indonésien a également présenté la danse Rantak de Sumatra, la danse Cendrawasih de Bali, qui ont été chaleureusement accueillis par les visiteurs de l'exposition pour promouvoir les arts culturels indonésiens en Norvège. C'est Zorita, c'est la clé diplomatique pour ce soir. C'est Zorita, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 19 janvier 1946, la création du tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient. Après la Seconde Guerre mondiale en 1945, la déclaration de Potsdam stipulait que tous les criminels de guerre et les personnes qui avaient commis des atrocités contre les prisonniers de guerre alliés seraient punis. À cet égard, le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, plus connu sous le nom de tribunal de Tokyo, a été créé le 19 janvier 1946 pour juger les fonctionnaires japonais qui étaient réputés avoir commis des crimes de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale en Asie-Pacifique. Cette audience du tribunal militaire a duré plus de 2 ans, a jugé 28 autres fonctionnaires japonais et 7 d'entre eux ont été condamnés à mort, dont l'ancien premier ministre japonais Hideki Tojo. Passons maintenant à l'événement du 19 janvier 1960, la signature du pacte de sécurité conjoint américano-japonais. Le pacte de sécurité conjoint entre les États-Unis et le Japon a été signé pour la première fois le 19 janvier 1960 à Washington. Le pacte stipule que l'armée américaine est autorisée à établir des bases militaires sur le Japon continental. Les deux pays se défendront mutuellement si l'un d'eux est attaqué. Ce pacte est entré en vigueur le 23 juin 1960. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 19 janvier 1966. Indira Gandhi a prêté serment en tant que Premier ministre de l'Inde. Indira Gandhi a commencé sa carrière politique en tant qu'assistante personnelle de son père, le Premier ministre Jawaharlal Nehru. Après la mort du Premier ministre Lal Bahadur Shastri le 11 janvier 1966, le Parti du Congrès national a nommé Indira Gandhi pour remplacer Lal Bahadur Shastri au poste de Premier ministre et a été inauguré le 19 janvier 1966. Indira Gandhi est la première Premier ministre et jusqu'à présent la seule femme Premier ministre de l'histoire de l'Inde. C'est Zorita, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Bahagia di sisimu aku merasa hidupku pun semakin sempurna. Coba kau dengarkan, inilah janjiku, takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby 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 baby, I want you to know. Kamu tak akan pernah.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir, voici mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie a remporté un fonds environnemental de 103,65 millions de dollars américains. L'Indonésie a remporté une allocation de fonds pour l'environnement mondial, ou FEM8, via le système d'allocation transparente des ressources au STAR de 103,65 millions de dollars américains, soit environ 1,56 billion de roupies. Le fonds environnemental est divisé en trois domaines, à savoir la biodiversité, le changement climatique et la dégradation des terres. Le vice-ministre de l'Environnement et des Forêts, Aldo Dohong, apprécie la confiance du FEM en Indonésie en allouant le plus grand STAR de ce huitième cycle. Cette appréciation a été transmise lors du Dialogue national indonésien NDI à Bali lundi 16 janvier, selon une déclaration écrite du même jour. L'événement a été organisé par le ministère de l'Environnement et des Forêts en collaboration avec le Fonds pour l'environnement mondial FEM. Cette activité s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du 8e cycle de l'atelier régional Asie-Pacifique pour la période 2022-2026, les 10 à 12 janvier 2023. Selon Alou, la mise en œuvre de ce dialogue national est très appropriée afin d'assurer l'implication active des parties prenantes dès les premières étapes du 8e FEM de la période 2022-2026. À la même occasion, le président directeur général du Fonds pour l'environnement mondial, FEM, Carlos Manuel Rodriguez, a exprimé sa gratitude à l'Indonésie pour son succès dans la gestion des fonds pour l'environnement mondial. Selon lui, l'Indonésie fait partie des 5 premiers pays capables d'avoir un impact et des résultats réels. Ceci est soutenu par des politiques en Indonésie qui continuent à développer l'aspect des ressources humaines. Il a déclaré que la réunion du dialogue national en Indonésie était le bon moment pour partager des informations et construire une compréhension commune des programmes prioritaires nationaux, des objectifs de la Convention, des programmes de FEM et des défis de la gestion environnementale sur le terrain. Un tel dialogue, selon lui, doit continuer à être mené sous différentes formes de communication afin d'augmenter l'efficacité et l'optimisation de l'utilisation de l'aide financière à travers le 8e FEM. Ces auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Oh,
C'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, si vous voyagez dans la capitale de Kalimantan du Sud, Banjarmasin, n'oubliez pas de profiter de ces divers délices culinaires. Il y a soto banjar avec angus et angnakom distinctif de cannelle. Le riz jaune de banjar est ketupat kandangan. Un autre aliment typique de banjar que vous devez goûter est le nasi itik gambut. Ce nasi itik gambut est un riz blanc accompagné d'un accompagnement de canard frit, assaisonné d'épices abang ou d'épices rouges typiques de Banjar. Cette nourriture est généralement enveloppée dans des feuilles de bananier. Contrairement aux autres plats de viande de canard qui ont une texture dure, le canard de nasi itik gambut a une texture douce avec un goût distinctif. En plus d'être douce, la sauce chili piquante qui imprègne la viande de canard a également ses propres caractéristiques. L'assaisonnement abang rend le riz au canard plus délicieux. En raison du mélange de saveurs des épices utilisées, comme les piments rouges séchés qui ont été écrasés avec des échalotes, de l'ail, de jungwabre, du sucre de pomme, de la cannelle, des clous de girofle et de la pâte de crevette. La saison de mangrang, l'arôme et le goût plus appétissant. Ces ritards, outre la viande de canard et les assaisonnements, le riz servi n'est pas ordinaire, car ce riz est le riz numéro 1 du district de Gambut, célèbre pour la ville du riz. C'est ce qu'on appelle le riz de type Siam Unus Mutiara, qui a des grains fins et une sensation douce sur la langue. Si vous voulez goûter au nasi itik gambut, il n'est pas difficile de trouver cette nourriture à Banjarmasin, en particulier dans le district de Gambut. De nombreux restaurants vendent de la nourriture à un prix de 20 000 rupiah à 30 000 rupiah par portion. C'est Zurita, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Saat ku membuka mata ini, ku melihat cerahnya mentari, pertanda harapan masih ada. Harus bergegas untuk bangun, meski tak jarang sedih melanda. Ku kan terus hadapi, melangkah dengan pasti. Aku kan
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée Grebek Sudiro 2023. Pour accueillir la nouvelle langue chinoise 2023, le gouvernement de la ville de Solo, dans le centre de Java, organise un événement Grebek Sudiro dans le village de Sudiro Prajan. Sudiro Prajan était autrefois connu comme le plus grand village de Chinatown à Solo. Acculturation de la culture chinoise et japonaise s'est produite naturellement dans le village de Sudiro Prajan et dure depuis longtemps. Les habitants du village de Sudiro Prajan ont ensuite organisé un événement qui symbolisait l'acculturation de cette culture. Depuis 2007, l'événement s'appelle Grebek Sudiro. La mise en œuvre de cet événement est choisie à chaque nouvel an chinois pour renforcer le message d'harmonie. Cette année, le thème de Grebek Sudiro est tricoter l'harmonie dans la diversité. Avec ce thème, les gens sont encouragés à prendre soin les uns des autres et à se mettre en synergie pour prendre soin de la diversité culturelle de la société indonésienne. Cette année, Grebek Sudiro se tiendra du 10 au 30 janvier. Divers stands de micro, petites et moyennes entreprises s'animent également le long de Jalan Jenderal Urip Sumoharjo. De la zone de la mairie au marché de Gede, des lanternes et diverses statues d'animaux ont été installées qui signifient le zodiaque. Et pour soutenir tous les événements, le gouvernement de la ville de Solo a mis en place une soirée sans voiture. À partir de Jalan Jenderal Sudirman devant le bureau de la Banque d'Indonésie, Solo, jusqu'à l'intersection Warung Pelem sur Jalan Urip Sumoharjo, les véhicules seront fermés tous les soirs pendant Grebek Sudiro de 19h jusqu'à 23h. Divers événements ont été organisés pour animer Grebek Sudiro 2023. Le 12 janvier, on a organisé Umbul Mantram. Dans Umbul Mantram, les habitants de Sudiro Prajan, Jebres, Surakarta, ont organisé des activités culturelles, entre autres le kirab gunungan et la prière pour la sécurité de la nation autour de Bokteko. Bokteko est une inscription qui a été construite sous le règne de Pakubuwono X. Point culminant de l'événement, le 15 janvier s'est tenu le carnaval culturel de Grebek Sudiro. A été participé par 2000 participants membres de 56 groupes artistiques. La crête de ce carnaval se trouve dans les deux gunungan qui ressemblent au stade Manahan et au bâtiment Juang Karangseng. Le contenu de gunungan et les gâteaux de keranjang qui sont distribués au public. Du 10 au 30 janvier 2023, les touristes peuvent également profiter de l'un des sites touristiques intéressants à visiter, à savoir le tour en bateau ornemental de Kali Pepe. Le soir du Nouvel An chinois, il y aura des feux d'artifice d'une durée d'environ 20 minutes. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Malam ini ku kencang lagi. Bertemu
C'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie et de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde. Avec moi, Audrey. Ce soir, dans la rubrique Magazine Musical, je vais vous présenter une chanson de Nicky Astria intitulée Mystery Cinta. Chers amis, la chanteuse du vrai nom Nicky Nastiti Karyadewi est une chanteuse de rock légendaire en Indonésie. Au cours de sa carrière de chanteuse, guitariste du groupe de rock indonésien God Bless, Ian Antono a été producteur sur plusieurs albums de Nicky Astria. Il n'est donc pas surprenant que la couleur musicale de Nicky soit si attachée à la musique de Ian Antono, dont l'une est la chanson Mystery Cinta. Cette chanson est sortie avec l'album Jarum Neraka le 19 août 1985. Les paroles de chanson Mystery Cinta décrivent une personne qui a donné sa vie à son amant. Mais l'amant ment et trahit. Bon, chers auditeurs, voici Nicky Astria va chanter une chanson intitulée Mystery Cinta. Bonne écoute.
Aku tenggelam dalam kerugian. sia-sia aku menjadi bintang di atas gelombang. Aku jadi segala yang diinginkannya untuk digambarkan di pantai ini.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiceindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.